Nous allons
ce matin méditer sur une parole du Seigneur Jésus qu'il s'agit de pénétrer parce que nous le voyons bien, elle est profonde, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et au verset 12. Chapitre 8 de Jean, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Et nous pourrions regarder, puisque nous sommes à l'évangile de Jean, au tout commencement, c'est-à-dire au chapitre 1er, le verset 4, chapitre 1er, verset 4, « En elle, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et encore un passage que nous allons joindre à cela dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, chapitre 1, verset 5, première épître de Jean, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Voyez que le grand problème, là, ici, nous est présenté comme étant celui de marcher dans la lumière ou de marcher à la lumière du Seigneur, de le suivre. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si bien que Dieu et son Fils Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, sont ensemble lumière. Cela va de soi, Christ partage avec le Père la nature divine, il est Dieu avec le Père. Le Père n'est pas lui-même, on ne peut pas dire que le Père est Dieu, on peut le dire, mais il est Dieu avec son Fils, et le Fils est Dieu avec le Père. Et le Père et le Fils ont un esprit qu'ils envoient partout, absolument partout, et qui maintenant accomplit la volonté de Dieu, communique ce qui est de l'œuvre de Christ, si bien qu'il y a, comme on le dit sous le vocable de Trinité, il y a un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Dieu et le Christ sont ensemble lumière. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il faut penser qu'il s'agit là d'une manière de nous parler de l'intelligence, intelligence parfaite et souveraine, sans aucun mélange d'imperfection? S'agit-il de voir dans cette expression « Je suis la lumière du monde » le Dieu dans sa sainteté, le Dieu trois fois saint? Certes, ce que nous venons de dire est vrai, est vrai. Mais le terme « lumière » signifie autre chose. Ce terme est employé non pas pour recouvrir d'autres termes, mais il signifie autre chose. Que signifie-t-il? Eh bien, la lumière rayonne, elle éclaire autour de son point d'émergence, et la lumière provient donc d'une source. C'est bien ce que les déclarations nous laissent penser. Jésus est source de lumière, et il faut le suivre pour marcher dans la lumière. Nous avons donc, dans les déclarations du Seigneur, cet aperçu que le Seigneur s'entoure d'une lumière mais que si nous ne le suivons pas, si nous laissons une distance s'établir entre lui et nous, alors lui, il va continuer à progresser, à marcher et emporter sa lumière, et nous allons nous trouver dans les ténèbres. Il faut donc suivre la source pour rester dans la lumière et marcher dans la lumière qui est celle de la vie. Donc la lumière rayonne. Ainsi est Dieu, ainsi est Christ, qui font l'un et l'autre rayonner l'amour parfait, et l'amour parfait est porteur de vérité et de vie. L'homme a été conçu et créé pour vivre dans le rayonnement de la lumière de Dieu. L'homme est une créature magnifique. Le psaume 139 affirme, et cela, nous acquiesçons, affirme que l'homme est une créature merveilleuse. Il est l'œuvre de Dieu. Que ce soit le corps, que ce soit l'âme, l'esprit, l'ensemble, notre être tout entier, comme Paul l'appelle, c'est là une créature merveilleuse. Mais cette créature ne peut pas vivre de la vie qui lui est destinée, ne peut pas vivre dans l'isolement, ne peut pas vivre dans la séparation d'avec Dieu, ne peut pas vivre, autrement dit, dans l'autonomie. Et c'est maintenant précisément ce que, avec un acharnement terrible, effroyable, les hommes veulent faire, vivre dans l'autonomie. Le matérialisme, l'athéisme sont des positions qui conduisent l'homme, ou qui manifestent, si vous voulez, cette volonté, cet acharnement de l'homme de vivre dans l'autonomie. Il ne veut pas dépendre d'un Dieu, il ne veut pas être assujetti à un Dieu, il veut être libre, il veut autrement dit être lui-même son Dieu. Et cela est impossible, l'être humain, la nature humaine n'est pas créée pour cela. Alors, la Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses. Dans la séparation de Dieu, on est mort. Et le Seigneur Jésus a dit à quelqu'un qui voulait le suivre, mais auparavant aller à l'enterrement de son père, il lui a dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. » On ne peut pas vivre, donc c'est la mort. Donc le monde, avec son athéisme, son matérialisme, s'engage maintenant dans la mort. Mais sans être athée, on peut être manqué de foi, manquer de persévérance, manquer de patience et s'écarter tout en reconnaissant que Dieu est lumière, que Christ est la lumière du monde, on peut s'écarter de Christ et à cela, bien entendu, il faut bien vite remédier si l'on est chrétien. Donc pour l'homme, la lumière qui vient de Christ est ce qu'on pourrait appeler un environnement normal qui correspond à la nature de Dieu, de l'homme, un environnement normal et vital. Car l'environnement normal de l'homme est avant tout celui d'une puissance spirituelle qui lui vient dans le rayonnement issu de la personne de Jésus-Christ. L'Ancien Testament le savait cela. Et là encore, nous découvrons la grande harmonie des Écritures. L'Ancien Testament déclare en effet que pour vivre, l'homme a besoin de la lumière que projette autour d'elle la personne de Dieu ou la personne du Messie. Dans l'Ancien Testament, vous savez, ce nom, Yahvé, désigne Dieu, mais désigne aussi le Messie. Alors, nous allons voir quelques textes. D'abord, dans le psaume 4, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs moux. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Voilà donc un vœu qui exprime bien cette conviction, cette révélation que sans la lumière qui vient de la face, de la personne de Dieu, il n'y a pas de salut et de vie possible. Dans le psaume 31, au verset 17, 31, verset 17, « Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. » Voyez-vous, le salut donc est dépendant de cette lumière qui vient de la face de Dieu. La face de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est la personne, la personne. Il est dit, par exemple, dans l'Exode, littéralement, Moïse demande à Dieu de venir, ou plus, Dieu dit d'abord à Moïse qu'il viendra lui-même avec lui, avec le peuple, et alors, littéralement dans l'hébreu, c'est « ma face ira ». Voyez-vous, « ma face ira ». Donc, ici, il y a une traduction littérale, « ma face », mais cela signifie la personne de Dieu, la personne localisée de Dieu, localisée, non pas la personne du Saint-Esprit de Dieu qui, elle, peut être partout, hein, elle est envoyée, elle est partout, mais la personne de Dieu nous est montrée, je ne dis pas Dieu a un corps, je ne dis pas cela, n'est-ce pas, parce que produirais là une affirmation qui ne serait pas suffisamment appuyée par les Écritures. Mais je dis que dans les Écritures, pour rendre compte du message global de la Bible, la personne de Dieu le Père est localisée. Paul nous dira qu'il habite une lumière inaccessible. Il habite un lieu, quelque chose, et le Seigneur Jésus lui-même priait le Seigneur du ciel et de la terre, mon Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux, et il levait même la tête, nous dit l'Évangile. Il levait la tête vers son Père qui est dans les cieux. Alors, cela, retenons cela, que la personne de Dieu est localisée, c'est un terme que j'emploie. Il faut pas trop s'arrêter aux mots dont nous nous servons, n'est-ce pas? Prenons les mots dont nous pouvons disposer, mais c'est cette idée que nous donne la Bible, que la personne de Dieu le Père est localisée. Et Dieu, ainsi que Jésus qui est assis à sa droite, envoie le Saint-Esprit. Hein? Je vous l'enverrai. Il dit le Paraclétos, je vous l'enverrai. Il envoie le Saint-Esprit, alors partout où il faut que le Saint-Esprit agisse. Bien, alors donc, faire luire la face de Dieu, c'est le vœu que présentait le peuple d'Israël. Alors là, j'irai, il y a d'autres textes, mais je vais aller au psaume 80, le psaume 80, verset, je lirai les, je lirai pas tout entier, le verset 4, le verset 8 et le verset 20. Verset 4. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Voyez-vous, relève-nous. Nous avons besoin d'être tirés de la mauvaise situation où nous sommes. Relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Donc, voyez, quelle était cette connaissance que possédait le psalmiste, c'est que le salut dépendait de cette lumière provenant de la face de Dieu. Et alors, dans le même psaume, au verset 8, « Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Et au verset 20, le dernier verset, « Éternel des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Alors, croyez-vous que Dieu ait répondu à cette prière? C'est une prière du psalmiste, une prière qui est devenue parole de Dieu. Vous savez que dans les psaumes, il y a beaucoup de prières, et ces prières sont devenues parole de Dieu. Donc, elles étaient inspirées. Hein? Alors, croyez-vous que Dieu ait répondu à cet appel de son peuple? Eh bien, oui, mais deux fois seulement et pas trois fois. Là, ici, dans le psaume, ce n'est pas pour rien que la prière, et cette prière est triple. Trois fois, ce désir est exprimé, ce vœu est exprimé, fais briller ta face et nous serons sauvés. Eh bien, le Seigneur a fait briller sa face deux fois. Il en manque une. Il en manque une. Il a fait briller sa face, en effet, d'abord sur le Sinaï. Ah, sur le Sinaï. Ah oui, il a fait vraiment, alors là, briller sa face, au point que Moïse, qui est resté 40 jours et 40 nuits, là, à deux reprises, devant le Seigneur, quand il est redescendu, sa face luisait. Sa figure était lumineuse. Il a été obligé, même, elle était lumineuse quand il sortait du tabernacle, de la tente d'assignation. Il sortait de la tente d'assignation, il était obligé de mettre un voile parce que c'était difficilement supportable pour les autres. Ça engendrait en eux une crainte, une peur. Alors, Moïse se couvrait la face. Donc, sur le Sinaï, il est vrai que Dieu a fait magnifiquement briller sa face, il a donné à son peuple la loi, ce qui était déjà une marche vers le salut, car donner la loi au peuple pour qu'il soit maintenu, pour qu'il soit gardé, c'était bien manifester déjà un amour envers le peuple et le désir de le conserver, donc de le sauver. Le don de la loi est donc un acte de salut de la part de Dieu. Et la seconde fois, quand le Seigneur a-t-il fait briller sa face la seconde fois? Eh bien, nous lirons dans le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe au chapitre 9, verset 1er. Chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Donc, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière, nous la retrouvons mentionnée dans l'évangile de Luc, d'abord au chapitre 1er, verset 76. Chapitre 1er, verset 76. Et toi, petit enfant, il s'agit là de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et toujours dans Luc, chapitre 2, verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Ainsi, vous le voyez, là, la venue du Seigneur Jésus sur la terre, l'entrée dans son ministère a été une réponse à cette prière du peuple d'Israël, « Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. » Toute vie, tout bonheur, tout bien, la troisième fois, oui, ah, qu'est-ce que ça va être, j'allais oublier de vous le dire. Quand le Seigneur va-t-il faire briller pour une troisième fois, puisque dans le psaume 80, nous avons vu qu'il y avait trois fois cette prière, et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard, la prière est composée par inspiration. Alors, la troisième fois, mais c'est quand Christ reviendra dans la gloire de Dieu. Et la gloire, c'est un grand phénomène lumineux. Il reviendra dans la lumière et les peuples qui seront là encore sur la terre seront dans l'effroi. Tout œil le verra. Et le chapitre 2 d'Ésaïe nous montre que les hommes seront dans la crainte. Ils sentiront ce moment arriver et ils seront dans la crainte. Ils iront se cacher dans les trous de la terre, dans les cavernes, les hommes qui resteront sur la terre, parce qu'ils auront peur de cette gloire qui est sur le point de venir sur la terre. Donc, ce sera la troisième fois, la troisième et dernière, parce que alors là, le salut sera accompli. Le salut sera tout à fait accompli. Il fallait donc trois choses. Il fallait le Sinaï, il fallait la venue de Jésus sur la terre, et il faut l'entrée dans le règne. Hein, fais briller sur nous ta face trois fois, et nous serons sauvés. Il n'y a aucune autre source de lumière que Dieu. Donc, que le Christ, qui est le soleil levant, comme l'a prophétisé le père de Jean-Baptiste. Le soleil ne peut être approché, ni même vu de près. Ben, vous êtes bien d'accord là-dessus, mais il envoie son rayonnement, il envoie sa lumière vers les hommes pour les faire vivre. Donc, quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, nous dit que le soleil levant nous a visités d'en haut, hein, eh bien, c'est sa lumière, évidemment, qui est venue. C'est pas le globe lui-même, parce que alors là, nous n'aurions pas résisté bien longtemps. Et il y a une comparaison qui peut être très valable, qui peut être faite, justement, entre le Père, le Fils, d'une part, et le Soleil et son rayonnement, d'autre part. Le globe, en somme, est toujours à sa place. Il faut qu'il soit là. Oh, Seigneur, laisse-le à sa place. Ne lui permet pas de s'en aller, parce que sans ça, notre pauvre petite terre, ce pauvre petit caillou sur lequel nous sommes placés, bah, que ferait-il ? Tomberait dans le vide, dans le néant, dans la désintégration. Alors, nous avons besoin de ce soleil qui nous tient. Là, nous parcourons une orbite autour du soleil. Nous avons bien besoin de lui. Et nous avons besoin, naturellement, de sa lumière et de sa chaleur. De sa lumière et de sa chaleur. Alors, le soleil, vont le comparer à Dieu le Père. Il est toujours à sa place, vous voyez. Dieu ne quitte pas sa place, lui. Dieu le Père, parce que c'est lui, c'est de lui que proviennent toutes les sources, toutes mes sources sont en toi, dit le psalmiste. Et nous avons besoin qu'il soit là, il est le souverain, source de vie, source d'amour, il est le souverain. Comme le Père a la vie en lui-même, Jésus a dit, moi aussi, le Fils aussi a la vie en lui-même, et il la donne à qui il veut, mais Dieu est source et souverain. Et puis, Dieu envoie son Fils, c'est-à-dire, en somme, si nous voulons bien, le rayonnement de sa gloire. Il l'envoie sur la terre, alors la parole de Dieu en elle était la lumière de la vie. Et cette lumière qui nous vient de Dieu et que nous appelons aussi parole de Dieu, puisque en elle, dans la parole de Dieu, était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Alors, le Seigneur Jésus vient, il est le rayonnement, il nous apporte la douceur de cette lumière et de la chaleur dont nous avons besoin pour vivre, de même que nos corps vivent grâce au rayonnement solaire. De même, nos esprits, nos âmes vivent dans le rayonnement de la lumière de Dieu. Et plus tard, chers amis, la lumière physique, qui nous sert aujourd'hui plutôt de comparaison, la lumière physique et la lumière d'ordre spirituel, cette lumière qui est la lumière de la vie, seront confondues dans la nouvelle terre. Dieu sera lui-même sa lumière. Il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, on n'a pas besoin de soleil, on n'a pas besoin de lune. Dieu éclairera dans tous les sens, il éclairera physiquement et spirituellement, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'en somme, il n'y aura qu'une seule lumière, on ne fera pas la distinction entre ce qui est physique et ce qui est spirituel. Si nous le faisons maintenant, c'est parce que nous sommes dans un temps de relativité. Tout est relatif. Et puis, nous sommes sur la terre du péché, où toutes choses ont été faussées. Mais lorsque nous serons dans le cadre de la nouvelle terre, cadre de la vie parfaite, là où sera le séjour éternel, eh bien, les choses physiques et les choses spirituelles seront une seule et même réalité. Le Seigneur nous dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, on peut imiter Dieu comme nous le dit Paul dans les Éphésiens, il nous dit « Soyez les imitateurs », c'est au chapitre 5. « Devenez donc, vous voyez, devenez, au cours de la vie chrétienne, il faut devenir, il y a donc une progression. « Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Alors, on peut devenir les imitateurs de Dieu, mais on ne peut suivre que Jésus-Christ, qui nous a été envoyé et qui a été homme marchant sur cette terre, qui a épousé notre nature et rentré dans la solidarité humaine de l'humanité et qui est toujours homme, mais maintenant l'homme nouveau, passé par la mort, la résurrection et glorifié auprès de Dieu. Mais attention, nous sommes assis, nous aussi, là-haut. Nous sommes assis, l'apôtre Paul nous le dit, nous avons été ressuscités avec lui et enlevés avec lui. Vous voyez, il y a une réalité qui n'a pas pris encore tout ça, qui n'a pas encore été pleinement manifestée, mais il y a une réalité spirituelle qui veut que nous soyons là où est le Christ maintenant. Alors, qu'est-ce qu'implique pratiquement... Il faut être pratique, n'est-ce pas? Bien sûr, suivre Jésus, marcher comme il a marché, le suivre, et il a beaucoup insisté sur ce terme, suivez-moi, que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Alors, suivre Jésus, oui, quand il était sur la terre, c'est ce que faisaient les disciples, les apôtres, avec leurs jambes. Mais nous aussi, nous avons besoin de nos jambes, mais nous ne voyons pas Jésus selon la chair, nous ne le connaissons pas selon la chair, nous le connaissons comme le Seigneur l'Esprit. Alors, comment pratiquement suivre Jésus? Eh bien, cela implique quatre choses que voici. La première, c'est une séparation. Il faut une séparation, être séparé de la vaine manière de vivre, être séparé du péché, séparé du monde avec ses motivations. Je ne dis pas séparé physiquement du monde, parce que nous sommes là, au contraire, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais séparé de ses motivations, de ses aspirations, nous ne partageons rien de l'esprit du monde. N'est-ce pas? C'est là que se situe la séparation d'avec le monde. Donc, séparation d'avec ses motivations... séparation aussi des liens qui retiendraient la marche. Il y a dans notre vie des liens qui sont susceptibles de retenir notre marche et nous ne pouvons pas suivre Jésus si ces liens sont là. Et le Seigneur les a situés dans une seule recommandation, renoncer à soi-même. Alors là, si on étudiait le renoncement à soi, on verrait que là prennent place toutes sortes de liens possibles. Et qu'il faut absolument rompre. Hein. Quelqu'un me disait ici, il n'y a pas longtemps, au Coteau, me disait que il savait bien qu'il y avait encore certaines propensions à commettre certaines fautes, certains péchés, que jusque-là, il n'était pas arrivé à dominer cela, c'était son mot, à dominer cela. Eh bien, ça constitue un lien et ça empêche cela de suivre le Seigneur Jésus. Il est évident que si vous avez un toutou, un chien qui est au bout d'une chaîne, n'est-ce pas, que vous alliez vous promener, que vous disiez « viens, suis-moi », bah, il ira au bout de sa chaîne et puis il ne pourra pas aller plus loin. Hein? Alors il faut que nous soyons donc déliés. Il y a donc une séparation et une libération, c'est la première condition pour pouvoir suivre Jésus pratiquement. Deuxième nécessité, c'est de participer à sa vie. Participer à sa vie. Partager sa vie. Et pour cela, il faut partager aussi ses souffrances. Ah ça, l'Écriture nous le dit. Lorsqu'il y en a, nous ne les inventons pas, bien sûr. Il faut être dans la communion de ses souffrances. Voyons un texte à ce sujet. Philippiens 3, 10. Afin de connaître Christ, c'est-à-dire d'être en communion avec lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. J'aurais dû lire, évidemment, un peu au-dessus, verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Cela peut se placer aussi dans cette seconde recommandation de Jésus, porter sa croix, que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alors, s'il renonce à lui-même, s'il porte sa croix, il pourra me suivre. Mais s'il ne veut pas porter sa croix, il ne pourra pas suivre le Seigneur Jésus. Alors, il faut, avec assurance, avec confiance, dire « Seigneur, je désire porter ma croix, montre-moi quelle est ma croix ». Et le Seigneur vous montrera si vous êtes bien décidé à porter votre croix. En somme, le chrétien fidèle est un pécheur repenti, pardonné, régénéré, porteur de croix. Voilà ce qu'il est, le chrétien. Troisième condition pour suivre Jésus, avoir avec lui une même destination. Il est évident que si Jésus va vers une certaine destination et que nous nous entendions aller vers une destination un peu différente, qui n'est pas située au même endroit, eh bien, nous ne pourrons pas le suivre. Et cela se traduit par une recommandation de l'apôtre Paul dans Romains 8 et verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Et alors, cette destination, nous sommes co-héritiers avec Christ, nous allons donc vers le même héritage que lui, nous allons pour prendre possession du même héritage. Mais dans l'épître aux Éphésiens, oui, verset 16, chapitre 1er, verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Voilà encore là l'héritage qui constitue notre espérance et il faut que nous espérions et espérer cet héritage qui nous est réservé dans les cieux et qui est situé lui-même dans la lumière. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, n'est-ce pas ? Eh bien, pour vraiment aller vers cet héritage, il faut en faire son espérance. Je ne sais pas, peut-être le moment de montrer qu'on peut ne pas, justement, posséder suffisamment cette espérance, mais je vous dirai simplement ceci, c'est que c'est arrivé à Abraham, ça, le pauvre. Eh oui, et pourtant, il est le père des croyants maintenant. Il nous est donné comme étant le père des croyants. Et vraiment, oui, il est bien le père des croyants. Eh bien, ça lui est arrivé. Il s'est trompé d'espérance. Et alors, il allait donc vers autre chose que vers la destination que Dieu avait donnée à sa vie et à son service. Quand il a eu Ismaël comme fils, eh bien, il était heureux. Il avait eu Ismaël à l'âge de 90 ans, hein, et de la servante Agar, et il était tout à fait heureux, il n'avait jamais eu d'enfant, voilà son premier fils. Magnifique, il était comblé. Et le fils de la promesse dont Dieu lui a parlé, il lui avait parlé combien, plus de 10 ans auparavant, Dieu a peut-être oublié, je ne sais pas, ou enfin Ismaël, pour l'instant, ça me suffit, j'ai un fils, c'est tout ce que je voulais. Et alors, il met tout sur ce fils, il ne pense plus à autre chose. Et toutes les promesses de Dieu, tout ça, ça s'éloigne de son cœur. Et fini, il a Ismaël, il a un fils, il est comblé. Et alors, il faut qu'après un moment, le Seigneur le rappelle à l'ordre. Ce fils que tu as là, non, Sarah l'avait dit, mais Dieu lui dira, ta femme, Sarah, a raison. Il n'héritera pas ce fils-là. C'est pas moi qui l'ai donné. Il n'héritera pas. Et ne pas hériter, ça veut dire non seulement il n'aura pas tes troupeaux, tes richesses, tes serviteurs, mais il n'héritera pas des promesses, c'était ça surtout. Il n'héritera pas des promesses que je t'ai faites et qui doivent se transmettre à ta descendance. Il n'héritera pas de tout cela. Alors il en faut un autre, et Abraham va alors consentir à se séparer d'Agar et d'Ismaël. Et il faut absolument cette séparation, parce que Abraham s'était trompé d'espérance. Il s'était trompé de direction. Le plan de Dieu n'était pas là. L'accomplissement des promesses n'était pas sur Ismaël. Alors après, il aura son temps, que lui naîtra alors Isaac. Isaac est le fils donné par Dieu, ce n'est plus le fils selon la chair, mais le fils selon l'esprit donné par Dieu. Alors Isaac vient, et quand il s'agit un peu plus tard, que Isaac est déjà un jeune homme, d'aller l'offrir en holocauste, Dieu lui demande d'aller l'offrir en holocauste, alors Dieu dira à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes. Le couteau dans la plaie, il me semble, hein, celui que tu aimes, ton unique. Comment ton unique, c'est le second? Ça, les Arabes savent bien nous le dire, vous voyez? Ah oui, les Arabes, ils nous disent, mais non, Ismaël, c'est l'aîné, c'est le premier. Oh, combien de fois ils m'ont dit ça? Ils croient en Abraham, ils aiment qu'on leur parle d'Abraham, mais Ismaël est le premier. Alors pourquoi vous mettez-vous Isaac, vous faites d'Isaac le fils aîné, le fils, parce que Dieu a dit ton unique, Dieu n'envoyait pas d'autre. C'est par là que passe le plan de Dieu, et c'est par là que l'espérance d'Abraham devait se diriger. Et nous, attention, nous n'avons pas à espérer seulement des choses sur la terre. Si nous avons été sauvés simplement pour un petit bonheur de la terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et Paul qui le dit. Nous avons été sauvés pour espérer. Il ne faut pas perdre de vue l'espérance. C'est la direction qui nous est donnée. Pour suivre Jésus, il faut donc être aussi messianique, si je puis m'exprimer ainsi, que l'était le Seigneur Jésus lui-même, qui nous dit Cherchez essentiellement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses seront données. Mais il faut chercher, être dans cette direction-là. Et puis la quatrième condition pour suivre Jésus, c'est celle de la persévérance et de l'endurance. Que dirait-on d'un marcheur qui suivrait un maître, supposons, ou un guide, mais qui s'arrêterait en cours de route en disant « Oh, je suis là, ça me fatigue, je ne veux pas continuer », il s'arrêterait. Alors, il n'irait pas, lui non plus, à la destination, même s'il avait pris la bonne direction, même si jusque-là, il avait bien suivi le guide. Il ne pourrait pas aller à destination. Nous avons dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 11, 11 à 13, cette parole, oui, 11, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure, lui, fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, vous voyez, il faut persévérer pour régner. C'est tellement logique, ça. Si nous n'allons pas jusqu'au bout, nous n'en entrerons pas, évidemment, dans le royaume de Dieu. Alors, voilà les quatre conditions pour suivre pratiquement Jésus. Alors là, nous sommes bien dans l'ordre pratique des choses. Une séparation. Deuxièmement, une participation à la vie de Christ, à ses souffrances. Troisièmement, une seule et même destination, le royaume de Dieu, authentiquement le royaume de Dieu et pas autre chose. Vous avez dans certaines fractions du christianisme, on espère autre chose que le royaume de Dieu. Et chers amis, laissez-moi vous le dire sans aucun parti pris, ni sans vouloir faire de polémique, c'est que dans le catholicisme tout entier, l'espérance du royaume de Dieu a complètement disparu. Elle a complètement disparu. Dans la liturgie, il y a bien le retour du Seigneur Jésus pour le règne, il y a bien la résurrection, mais dans la théologie catholique, j'en sais quelque chose, j'ai des livres catholiques, je reçois des éditions du CERF, certains ouvrages, je les consulte, hein, il n'y a plus l'espérance du royaume. Le royaume s'est transformé, on en parle un peu, mais il est simplement la situation du moment qui va se transformer, l'Église catholique se voyant, elle, devenir sur cette terre même le royaume. C'est-à-dire qu'il y a en somme une destination qui est toute différente, avec des termes analogues, toute différente de la véritable destination qui nous est donnée par la révélation de Dieu. Et la quatrième condition pour suivre Jésus, pratiquement, c'est celle de la persévérance et de l'endurance. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il marchera donc hors des ténèbres, c'est-à-dire quoi ? Hors du monde de l'ignorance, du péché et de la mort. La vie a besoin de lumière, c'est son environnement nécessaire, son environnement énergétique. Il y a une énergie spirituelle, c'est son environnement énergétique, la lumière. Et elle ne peut être vécue que comme celui qui dispense cette lumière et par lui. Le seul mobile de la marche, c'est donc de suivre Jésus. S'arrêter, c'est ne plus suivre, c'est donc sortir de la lumière. Alors, voyez que l'impératif ici que nous présente le Seigneur Jésus, c'est de le suivre, puis si nous ne le suivons pas, nous marchons dans les ténèbres. Et si nous marchons dans les ténèbres, nous avons lu dans la première épître de Jean, le sang de Christ ne nous purifie pas. Le sang de Christ nous purifie de tout péché si nous sommes résolus à marcher avec persévérance dans la lumière, c'est-à-dire en suivant Jésus. Autrement, le sang de Jésus ne nous purifie pas. Attention, il est en second, lui. C'est une proposition corollaire. Si vous marchez à la lumière, ah bon, alors vous êtes en communion. Et à ce moment-là, le sang de Christ vous purifie de tout péché. Mais souvent, nous avons la mauvaise habitude de dire, oh ben, j'ai ceci, cela, des défauts, je tombe souvent, je m'égare, je commets des péchés, j'en suis désolé, mais le sang de Christ me purifie de tout péché. Commencez par vous mettre dans la bonne direction, commencez par suivre Jésus et vous direz, alors le sang de Christ me purifie de tout péché. Mais si vous ne revenez pas dans le sillage du Christ, ne dites pas le sang de Christ me purifie. Le sang de Christ ne va pas vous purifier si vous êtes encore dans les ténèbres. Ça ne servirait à rien. Hein? C'est comme si on donnait un bain à quelqu'un qui est dans la boue. Hein? Ça ne lui donnerait absolument rien. Je voudrais vous donner un exemple de la marche dans la lumière. Un exemple, évidemment, marcher dans la lumière de Christ, malgré les conditions d'ordre pratique que je viens d'étudier avec vous maintenant, marcher dans la lumière, ça a quand même quelque chose de très spirituel, quelque chose en somme de très éloigné des moyens de conception humain. Vous voyez, il nous est difficile, mais il faut laisser précisément l'Esprit de Dieu nous montrer la réalité de cette invitation à marcher dans la lumière. Alors, je vais vous prendre un exemple de marche dans la lumière, un exemple, pas, je ne le prends pas parmi les hommes, je le prends parmi les astres, ou parmi les corps célestes. Vous voyez à peu près ce que, dans quelle position nous sommes, nous, humains, sur ce petit globe, ce petit caillou. Vous savez, l'espace, la Terre est une poussière, une petite poussière. Bon, enfin, vu de plus près, n'est-ce pas, c'est quand même un globe. Et quand on le voit de haut, c'est la planète bleue, n'est-ce pas? Et elle a un certain aspect, notre Terre. Alors, vous avez vu des photographies de la Terre vues d'en haut, n'est-ce pas, vues d'un satellite. Vous avez vu ça? Elle est la planète bleue, on l'appelle. Eh bien, imaginez donc un satellite au-dessus de notre globe, de notre Terre. Et vous savez ce que fait la Terre? Vous n'êtes peut-être pas tous astrophysiciens, mais enfin, vous savez quand même ça, n'est-ce pas? Alors, notre Terre, elle tourne sur elle-même, hein? Elle tourne comme une toupie. Et puis, en même temps, elle avance sur l'écliptique. Elle avance sur son orbite. Hein? Elle avance. Donc, elle fait en somme, elle décrit en somme une vie sans fin. Hein? Bon, elle tourne sur elle-même. En 24 heures, elle a fait le tour. Bien. Alors, si sur ce globe, tenez, voilà, je l'ai ici bien représenté, justement, devant moi. Alors, ce globe tourne, n'est-ce pas? Bon, sur lui-même, puis il avance sur son orbite. Alors, supposez que l'on mette un satellite sur la Terre, il y en a des quantités. Actuellement, vous savez, il y a toute une quincaillerie au-dessus de notre tête. Hein. Il y en a des choses, des quantités de choses. Bon, alors, imaginons un de ces satellites sur la Terre et que ce satellite, on lui ait donné une vitesse angulaire compensant très exactement la vitesse angulaire de la Terre qui tourne sur elle-même, c'est-à-dire une vitesse angulaire de sens contraire. Alors, notre satellite, par exemple, lui, la Terre tourne comme ça, et notre satellite va tourner comme ça, hein, et à la même vitesse angulaire. Hein, voilà. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Eh bien, lui, il ne va pas être entraîné en dessous, n'est-ce pas, dans la nuit, dans le côté opposé au soleil. Il va rester, lui, en vue du soleil. Et il va être là toujours dans la lumière du soleil. Il va être éclairé constamment, ce satellite. Voyez-vous? Alors, je ne vous propose pas de vous mettre en satellite sur la Terre. Je ne vous propose pas non plus d'acquérir une vitesse angulaire égale et de sens contraire à celle de la Terre, mais c'est là un exemple, n'est-ce pas, qui nous montre qu'un corps peut rester constamment éclairé par le soleil. Eh bien, il faut que ce soit notre cas. Il ne faut pas que nous soyons entraînés du côté des ténèbres, du côté de l'ombre, hein, en tournant avec le globe, autrement dit, en tournant avec la Terre, hein, avec le monde. Il ne faut pas que nous soyons entraînés du côté sombre, hein, du côté où la lumière ne peut pas parvenir. Et il faut que nous restions là, bien exposés à la lumière du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus nous dit de suivre, de le suivre. Et en effet, il est impossible d'emporter la lumière avec soi, dans ses poches, n'est-ce pas, dire, tiens, je suis allé à Christ, là, j'ai reçu la pleine lumière de Christ, ça va bien maintenant, je vais aller à ma fantaisie, là où je veux, je vais faire ce que je veux, ou je vais faire ce que j'ai dans la tête, j'ai un tas de projets, je vais m'orienter comme il va me plaire, n'est-ce pas. Alors, nous nous éloignerions de Christ, nous ne serions plus dans son sillage, nous ne le suivrions plus, et nous aurions peut-être l'illusion de pouvoir rester dans la lumière, d'emporter la lumière avec nous, et ce serait une illusion, nous marcherions dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, mais celui qui ne me suit pas sera nécessairement dans les ténèbres. On ne peut pas emporter la lumière avec soi. Pour la conserver, il faut rester en vue du Christ, et par conséquent, le suivre. Vous savez, dans ce cheminement du Seigneur vers Jérusalem, à un certain moment, la petite compagnie des disciples revenait vers Jérusalem en passant par Jéricho. Et alors, en arrivant près de Jérusalem, le Seigneur dit à deux de ses disciples, tenez, voyez, là-bas, il y a un village qui s'appelle Béthanie, vous allez vous y rendre, je vous attends là, rendez-vous à ce village, et puis vous verrez le chemin tourne, le contour du chemin, vous verrez un petit anon qui est attaché là, vous le détacherez et vous me l'apporterez. Si on vous dit quelque chose, si les gens du village vous demandent des explications, vous direz simplement ceci, le Seigneur en a besoin, c'est tout. Et puis vous m'apporterez cet anon. Bien. Mais c'est une petite commission, pas bien méchant, pas bien difficile. Si on vous demandait ça maintenant, vous seriez tous, alors, tous dévoués pour le faire. Hein? Je vous vois tous partir à Béthanie, là, et détacher l'anon. Hein? C'est pas difficile, c'était facile à faire, très facile. Mais pourquoi n'y a-t-il eu que deux disciples qui aient reçu cette demande du Seigneur, cette petite mission à accomplir? Parce qu'ils étaient près de lui. Et que les autres s'amusaient à regarder les bords du chemin, les fleurettes peut-être, ou s'attardaient un peu à quelque distance du Seigneur, tandis que ces deux-là étaient prêts. Et au moment, ils étaient près du Seigneur, au moment où le Seigneur a besoin de disciples, il prend ceux qui sont là. Et ce sont ceux-là qui ont le bonheur de participer à l'œuvre, même pour aller détacher un anon, c'est participer à l'œuvre grandiose de Dieu, car cet anon, il a permis d'accomplir une grande prophétie et de manifester la destination du Christ en tant que roi. C'est la royauté du Christ qui va être officiellement signifiée par cette entrée à Jérusalem sur un anon, le petit d'une ânesse. Voilà donc, vous voyez, la nécessité d'être près du Christ, de le suivre constamment, et pour être, et si nous prenons cette autre parole que nous a dite le Seigneur, vous êtes la lumière du monde, comment voudriez-vous que nous soyons la lumière du monde si nous étions dans les ténèbres, hein? Alors nous serions les ténèbres du monde, serions ténèbres comme le monde. Pour vérifier cette parole du Christ, vous êtes la lumière du monde, il faut que nous soyons près de lui, que nous recevions sa lumière, soyons toujours dans sa lumière, et pour cela que nous le suivions. Le Seigneur le désire et vous le permettra, mais désirez-le vous-même, de tout votre cœur. Vous savez, ce que le Seigneur nous dit, il faut que nous le désirions et nous en faisions un objet d'aspiration, de prière. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, notre Père, oui Seigneur, tu es la lumière du monde, la lumière venue parmi les hommes que ta mission était de délivrer et de sauver. Ô Seigneur notre Dieu, combien cette recommandation de te suivre et de marcher à ta lumière nous est précieuse ce matin. Nous voulons la remémorer, nous voulons qu'elle soit dans nos cœurs comme quelque chose de tout nouveau, Seigneur, car nous avons mieux à faire que nous n'avons fait. Nous avons, Seigneur, à te suivre de plus près que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Ô Seigneur, c'est un engagement que tu désires de nos cœurs ce matin, et nous voulons te l'apporter dans la foi, dans la confiance, au nom de Jésus. Amen.